George Sand, Mattea. Le temps devenait de plus en plus menaçant et l'eau, teinte d'une couleur de mauvaise augure que les matelots connaissent bien, commençait à battre violemment les quais et entrechoquer les gondoles amarrées au degré de marbre blanc de la Piazzetta. Le couchant, barbouillé de nuages, envoyait quelques lueurs d'un rouge vineux à la façade du palais ducal, dont les découpures légères et les niches aiguës se dessinaient en aiguilles blanches sur un ciel couleur de plomb. Les mâts des navires à l'ancre projetaient sur les dalles de la rive des ombres grêles et gigantesques qu'effaçaient une à une le passage des nuées sur la face du soleil. Les pigeons de la République s'envolaient épouvantés et se mettaient à l'abri sous le dais de marbre des vieilles statues, sur l'épaule des saints et sur les genoux des madones. Le temps vent s'éleva, fit claquer les banderoles du port et vint s'attaquer aux boucles roides et régulières de la perruque de Serge Giacomo Spada, comme si c'eût été la crinière métallique du lion de Saint-Marc ou les écailles de bronze du crocodile de Saint-Théodore. Ser Giacomo Spada, le marchand de soieries, insensible à ce tapage inconvenant, se promenait le long de la colonnade avec un air de préoccupation majestueuse. De temps en temps, il ouvrait sa large tabatière d'écailles blondes doublées d'or, en y plongeant ses doigts qu'il flairait ensuite avec recueillement, bien que le malicieux Sirocco eût depuis longtemps mêlé les tourbillons de son tabac d'Espagne à ceux de la poudre enlevée à son chef vénérable. Enfin, quelques larges gouttes de pluie se faisant sentir à travers ses bas de soie, et un coup de vent ayant fait voler son chapeau et rabattu sur son visage la partie postérieure de son manteau, il commença à s'apercevoir de l'approche d'une de ces bourrasques qui arrivent à l'improviste sur Venise au milieu des plus sereines journées d'été et qui font en moins de 5 minutes un si terrible dégât de vitres, de cheminées, de chapeaux et de perruques. Ser Giacomo Spada s'étant débarrassé non sans peine de plis du camelot noir que le vent plaquait sur son visage, se mit à courir après son chapeau aussi vite que purent lui permettre sa gravité sexagénaire et les nombreux embarras qu'il rencontrait sur son chemin. Ici, un brave bourgeois, qui ayant eu la malheureuse idée d'ouvrir son parapluie et s'apercevant bien vite que rien n'était moins à propos, faisait de furieux efforts pour le refermer et s'en allait avec lui à reculons vers le canal. Là, une vertueuse matrone occupée à contenir l'insolence de l'orage engouffré dans ses jupes. Plus loin, un groupe de bateliers empressés de délier leurs barques et d'aller les mettre à l'abri sous le pont le plus voisin. Ailleurs, un marchand de gâteaux de maïs courant après sa vile marchandise, ni plus ni moins que Ser Giacomo après son excellent couvre-chef. Et après bien des peines, le digne marchand de soieries parvint à l'angle de la colonnade du palais ducal, où le fugitif s'était réfugié. Mais au moment où il pliait un genou et allongeait un bras pour s'en emparer, le maudit chapeau repartit sur l'aile vagabonde du Sirocco et prit son vol le long de la rive des Esclavons, côtoyant le canal avec beaucoup de grâce et d'adresse. Le marchand de soieries fit un gros soupir, croisa un instant les bras sur sa poitrine d'un air consterné, puis s'apprêta courageusement à poursuivre sa course, tenant d'une main sa perruque pour l'empêcher de suivre le mauvais exemple de l'autre, serrant les plis de son manteau qui s'entortillait obstinément autour de ses jambes. Il parvint ainsi au pied du pont de la Paille, et il mettait de nouveau la main sur son tricorne lorsque l'ingrat, faisant une nouvelle gambade, traversa le petit canal des prisons, sans le secours d'aucun pont ni d'aucun bateau, et s'abattit comme une mouette sur l'autre rive. « Oh, diable, le chapeau !» s'écria Ser Giacomo découragé. Avant que je n'aie traversé un pont, il aura franchi tous les canaux de la ville. Oh, profite qui voudra. Une tempête de rires et de huées répondit en glapissant à l'exclamation de Serge Zaccomo. Il jeta autour de lui un regard courroucé et se vit au milieu d'une troupe de polissons qui, sous leurs guenilles et avec leurs mines sales et effrontées, imitaient son attitude tragique et le froncement olympien de son sourcil. « Canaille !» s'écria le brave homme en riant à demi de leur singerie et de sa propre mésaventure. « Prenez garde que je me saisisse de l'un de vous par les oreilles et que je ne le lance avec mon chapeau au milieu des lagunes !» En proférant cette menace, Serge Zaccomo voulut faire le moulinet avec sa canne. Mais comme il levait le bras avec une noble fureur, ses jambes perdirent l'équilibre. Il était près de la rive et il abandonna le pavé pour aller tomber. Heureusement, la gondole de la princesse Veneranda se trouvait là, arrêtée par un embarras de barque Chiolgiot, et faisait de vains efforts de rame pour les dépasser. Serge Zaccomo, se voyant lancé, ne songea plus qu'à tomber le plus décemment possible, tout en se recommandant à la Providence, laquelle, prenant sa dignité de père de famille et de marchand de soieries en considération, daigna lui permettre d'aller s'abattre aux pieds de la princesse Veneranda et de ne point chiffonner trop malhonnêtement le panier de cette illustre personne. Néanmoins, la princesse, qui était fort nerveuse, jeta un grand cri d'effroi, et les polissons pressés sur la rive applaudirent et trépignèrent de joie. Ils restèrent là tant que leurs huées et leurs rires purent atteindre le malheureux Zaccomo, que la gondole emportait trop lentement à travers la mêlée d'embarcations qui encombrait le canal. La princesse grecque Veneranda Zjika était une personne sur l'âge de laquelle les commentaires flottaient irrésolus du chiffre 40 au chiffre 60. Elle avait la taille fort droite, bien prise dans un corps baleiné, d'une rigidité majestueuse. Pour se dédommager de cette contrainte, où, par amour de la ténuité, elle condamnait une partie de ses charmes, et pour paraître encore jeune et folâtre, elle remuait à tout propos les bras et la tête, de sorte qu'on ne pouvait être assis près d'elle sans recevoir au visage à chaque instant son éventail ou ses plumes. Elle était d'ailleurs bonne, obligeante, généreuse jusqu'à la prodigalité, romanesque, superstitieuse, crédule et faible. Sa bourse avait été exploitée par plus d'un charlatan, et son cortège avait été grossi de plus d'un chevalier d'industrie. Mais sa vertu était sortie pure de ses dangers grâce à une froideur excessive d'organisation que les puérilités de la coquetterie avaient fait passer à l'état de maladie chronique. Serge Zaccomo Spada était sans contredit le plus riche et le plus estimable marchand de soieries qu'il y eut dans Venise. C'était un de ces véritables amphibies qui préfèrent leur île de pierre au reste du monde, qu'ils n'ont jamais vu, et qui croiraient manquer à l'amour et au respect qu'ils lui doivent s'ils cherchaient à acquérir la moindre connaissance de ce qui existe au-delà. Celui-ci se vantait de n'avoir jamais mis le pied en terre ferme et de ne s'être jamais assis dans un carrosse. Il possédait tous les secrets de son commerce et savait au juste quel îlot de l'archipel ou quel canton de la Calabre élevait les plus beaux mûriers et filait les meilleures soies. Mais là se bornaient absolument ses notions sur l'histoire naturelle terrestre. Il ne connaissait de quadrupèdes que les chiens et les chats, et n'avait vu de bœuf que coupé par morceaux dans le bateau du boucher. Il avait des chevaux ou une idée fort incertaine, pour l'avoir vu deux fois dans sa vie, à de certaines solennités où, pour divertir et surprendre le peuple, le Sénat avait permis à des troupes de bateleurs d'en amener quelques-uns sur le quai des esclavons. Mais ils étaient si bizarrement et si pompeusement harnachés que Zerzacomo et beaucoup d'autres avaient pu penser que leurs crins étaient naturellement tressés et mêlés de fils d'or et d'argent. Quant aux touffes de plumes rouges et blanches dont on les avait couronnées, il était hors de doute qu'elles appartenaient à leur tête, et Zerzacomo, en faisant à sa famille la description du cheval, déclarait que cet ornement naturel était ce qu'il y avait de plus beau dans l'animal extraordinaire apporté de la terre ferme. Il le rangeait d'ailleurs dans l'espèce de bœuf, et encore aujourd'hui, beaucoup de Vénitiens ne connaissent pas le cheval sous une autre dénomination que celle de bœuf sans corne, boue senza corni. Zerzacomo était méfiant à l'excès quand il s'agissait de risquer un sequin dans une affaire, crédule comme un enfant et capable de se ruiner quand on savait s'emparer de son imagination, que l'oisiveté avait rendu fort impressionnable. Laborieux et actif, mais indifférent à toutes les jouissances que pouvaient lui procurer ses bénéfices, amoureux de l'or monnayé et dilettante di musica, bien qu'il eût la voix fausse et battît toujours la mesure à contre-temps. Doux, souple et assez adroit, pour régner au moins sur son argent, sans trop irriter une femme acariâtre. Pareil d'ailleurs à tous ces vrais types de sa patrie, qui participent au moins autant de la nature du polype que de celle de l'homme. Il y avait bien une trentaine d'années que M. Spada fournissait des étoffes et des rubans à la toilette effrénée de la princesse Gica. Mais il se gardait bien de savoir le compter des ans écoulés lorsqu'il avait l'honneur de causer avec elle, ce qui lui arrivait assez souvent, d'abord parce que la princesse se livrait volontiers avec lui au plaisir de babiller, le plus doux qu'une femme grecque connaisse, ensuite parce que Venise a eu en tout temps les mœurs faciles et familières qui n'appartiennent guère en France aux petites villes, et que notre grand monde, plus collé monté, appellerait du commérage de mauvais ton. Après s'être fait expliquer l'accident qui avait lancé M. Zacomo à ses pieds, la princesse Vénéranda le fit donc s'asseoir sans façon auprès d'elle, et le força, malgré ses humbles excuses, d'accepter un abri sous le drap noir de sa gondole contre la pluie et le vent, qui faisait rage et qui autorisait suffisamment un tête-à-tête entre un vieux marchand sexagénaire et une jeune princesse qui n'avait pas plus de 55 ans. « Vous viendrez avec moi jusqu'à mon palais, » lui avait-elle dit, « et mes gondoliers vous conduiront jusqu'à votre boutique. » Et chemin faisant, elle l'accablait de questions sur sa santé, sur ses affaires, sur sa femme, sur sa fille. Question pleine d'intérêt, de bonté, mais surtout de curiosité. Car on sait que les dames de Venise, passant leurs jours dans l'oisiveté, n'auraient absolument rien à dire le soir à leurs amants ou à leurs amis si elles ne s'étaient fait le matin un petit recueil d'anecdotes plus ou moins puériles. Ser Spada, d'abord très honoré de ces questions, il répondit moins nettement et se troubla lorsque la princesse entama le chapitre du prochain mariage de sa fille. « Mathéa, lui disait-elle pour l'encourager à répondre, « Mathéa est la plus belle personne du monde. Vous devez être bien heureux et bien fier d'avoir une si charmante enfant. Toute la ville en parle et il n'est bruit que de son air noble et de ses matières distinguées. » « Voyons, Spada, pourquoi ne me parlez-vous pas d'elle comme à l'ordinaire ? Il me semble que vous avez quelques chagrins et je gagerai que c'est à propos de Mathéa, car chaque fois que je prononce son nom, vous froncez le sourcil comme un homme qui souffre. Voyons, voyons, allez, contez-moi cela. Je suis l'ami de votre petite famille. J'aime Mathéa de tout mon cœur, c'est ma filleule, j'en suis fier. » Je serais bien fâché qu'elle fût pour vous un sujet de contrariété, et vous savez que j'ai le droit de la morigéner. Aurait-elle une amourette? Refuserait-elle d'épouser son cousin Checo? Monsieur Spada, dont toutes ces interrogations augmentaient terriblement la souffrance, essaya respectueusement de les éluder. Mais Vénéranda, ayant flairé là l'odeur d'un secret, s'acharnait à sa proie, et le bonhomme, quoique assez honteux de ce qu'il avait à dire, ayant une juste confiance en la bonté de la princesse, et d'ailleurs aimant à parler comme un Vénitien, c'est-à-dire presque autant qu'une Grecque, se résolut à confesser le sujet de sa préoccupation. Hélas, brillante excellence, carissima, dit-il en prenant une prise de tabac imaginaire dans sa tabatière vide, c'est en effet ma fille qui cause le chagrin que je ne puis dissimuler. Votre seigneurie sait bien que Mathéa est en âge de songer à autre chose qu'à des poupées. Sans doute, elle a tantôt 5 pieds de haut, répondit la princesse, la plus belle taille qu'une femme puisse avoir. C'est précisément ma taille. Cependant, elle n'a pas plus de 14 ans, c'est ce qui la rend un peu excusable. Car après tout, c'est encore un enfant, incapable d'un raisonnement sérieux. D'ailleurs, le précoce développement de sa beauté doit nécessairement lui donner quelque impatience d'être mariée. Hélas, reprit Ser Zaccomo, votre seigneurie sait combien ma fille est admirée, non seulement par tous ceux qui la connaissent, mais encore par tous ceux qui passent devant notre boutique. Elle sait que les plus élégants et les plus riches seigneurs s'arrêtent des heures entières devant notre porte, feignant de causer entre eux ou d'attendre quelqu'un pour jeter de fréquents regards sur le comptoir où elle est assise auprès de sa mère. Plusieurs viennent marchander mes étoffes pour avoir le plaisir de lui adresser quelques mots, et ceux qui ne sont point mal appris achètent toujours quelque chose, ne fût-ce qu'une paire de bas de soie. C'est toujours cela. Dame Loredana, mon épouse, qui certes est une femme alerte et vigilante, avait élevé cette pauvre enfant dans de si bons principes que jamais jusqu'ici on n'avait vu une fille si réservée, si discrète et si honnête. Toute la ville en témoignerait. Certes, reprit la princesse, il est impossible d'avoir un maintien plus convenable que le sien. Et j'entendais dire l'autre jour dans une soirée que la Mathéa était une des plus belles personnes de Venise et que sa beauté était rehaussée par un certain air de noblesse et de fierté qui la distinguait de toutes ses égales en la faisant paraître comme une princesse au milieu d'un troupeau de soubrettes. « Cela est vrai, par le Christ vrai !» répéta Ser Zaccomo d'un ton mélancolique. « C'est une fille qui n'a jamais perdu son temps à satisfaire le colifichet, chose qui ne convient qu'aux dames de qualité. Toujours propre et bien peignée dès le matin, et si tranquille, si raisonnable, qu'il n'y a pas un cheveu de dérangé à son chignon dans toute une journée. » Économe, laborieuse et douce comme une colombe, ne répondant jamais pour se dispenser d'obéir, silencieuse que c'est un miracle, étant fille de ma femme, enfin, un diamant, un vrai trésor. Ce n'est pas la coquetterie qu'il a perdue, car elle ne faisait une attention à ses admirateurs pas plus aux honnêtes gens qui venaient acheter dans ma boutique qu'aux godelureaux qui en encombraient le seuil pour la regarder. Ce n'est pas non plus l'impatience d'être mariée, car elle sait qu'elle a, avant tout, un mari tout près, qui n'attend qu'un mot pour venir lui faire sa cour. Eh bien, malgré tout cela, voilà que du jour au lendemain, et sans avertir personne, elle s'est monté la tête pour quelqu'un que je n'ose pas seulement nommer. « Pour qui, grand Dieu ?» s'écria Vénéranda. Est-ce le respect ou l'horreur qui glace ce nom sur vos lèvres? Est-ce de votre vilain bossu garçon de boutique? Est-ce du doge que votre fille est éprise? C'est pis que tout ce que votre Excellence peut imaginer, répondit Ser Zaccomo en s'essuyant le front. C'est d'un mécréant, c'est d'un idolâtre, c'est du Turc à boule. Qu'est-ce que c'est à boule ? Demanda la princesse. C'est, répondit Zaccomo, un riche fabricant de ces belles étoffes de soie de Perse, brochées d'or et d'argent que l'on façonne à l'île de Scio, et que votre Excellence aime à trouver dans mon magasin. Un Turc ? S'écria Vénéranda. Sainte Madone ! Oh, c'est en effet bien déplorable, je n'y conçois rien. Amoureuse d'un Turc, ô Spada, cela ne peut pas être. Il y a là-dessous quelque mystère. Quant à moi, j'ai été dans mon pays, poursuivi par l'amour des plus beaux et des plus riches d'entre eux, et je n'ai jamais eu que de l'horreur pour ces gens-là. Oh, c'est que je me suis recommandé à Dieu dès l'âge où ma beauté m'a mise en danger et qu'il m'a toujours préservé. Mais sachez que tous les musulmans sont voués au diable et qu'ils possèdent tous des amulettes ou des filtres au moyen desquels beaucoup de chrétiennes renient le vrai Dieu pour se jeter dans leurs bras. Soyez sûrs de ce que je vous dis. N'est-ce pas une chose inouïe, un de ces malheurs qui ne peuvent arriver qu'à moi ? Dit M. Spada, une fille si belle et si honnête. Sans doute, reprit la princesse, il y a de quoi s'étonner et s'affliger. Mais je vous le demande, comment a pu s'opérer un pareil sortilège ? Voilà ce qu'il m'est impossible de savoir. Seulement, s'il y a un charme jeté sur ma fille, je crois pouvoir en accuser un infâme serpent appelé Timothée. Grec esclavon qui est au service de ce Turc et qui vient souvent avec lui dans ma maison pour servir d'interprète entre lui et moi. Car ces mahométans ont une tête de fer et depuis 5 ans Kaboul vient à Venise, ils ne parlent pas plus chrétien que le premier jour. C'est donc pas par les oreilles qu'il a séduit ma fille, car il s'assied dans un coin et ne dit un mot pas plus qu'une pierre. Ce n'est pas par les yeux, car il fait pas plus attention à elle que s'il ne l'eût pas encore aperçue. Il faut donc, en effet, comme votre Excellence le remarque, et comme je l'avais déjà pensé, qu'il y ait une cause surnaturelle à cet amour-là. Car de tous les hommes dont Mathéa est entourée, ce damné est le dernier auquel une fille sage et prudente comme elle aurait dû songer. On dit que c'est un bel homme. Quant à moi, il me semble fort laid, avec ses grands yeux de chouette et sa longue barbe noire. « Mon cher monsieur, interrompit la princesse, il y a du sortilège là-dedans. Avez-vous surpris quelque intelligence entre votre fille et ce grec Timothée ?»« Bon, certainement, il est si bavard qu'il parle même avec Thisbé, la chienne de ma femme. Et il adresse très souvent la parole à ma fille pour lui dire des riens, des âneries. » Qui la ferait bailler, dite par un autre, mais qu'elle accueille fort bien de la part de Timothée. C'est au point que nous avons cru d'abord qu'elle était amoureuse du grec, et comme c'est un homme de rien, nous en étions fâchés. Mais là, ce qui lui arrive est bien pis. Et comment savez-vous que c'est du Turc et non pas du grec que votre fille est amoureuse ? Parce que nous l'a dit elle-même ce matin. Ma femme la voyait maigrir, devenir triste, indolente et distraite. Elle avait pensé que c'était le désir d'être mariée et qui la tourmentait ainsi. Et nous avions décidé que nous ferions venir son prétendu sans rien lui dire. Ce matin, elle vint m'embrasser d'un air si chagrin et avec un visage si pâle que je crus lui faire plaisir en lui annonçant la prochaine arrivée de Checo. Mais au lieu de se réjouir, elle hocha la tête d'une manière qui fâcha ma femme, laquelle, il faut l'avouer, est un peu emportée et traite quelquefois sa fille trop sévèrement. Qu'est-ce à dire ? Lui demanda-t-elle. Est-ce ainsi que le répond à son papa ? J'ai rien répondu, dit la petite. Vous avez fait pis, dit la mère. Vous avez témoigné du dédain pour la volonté de vos parents. Quelle volonté ? Demanda Mathéa. Ben, la volonté que vous receviez bien le Checo, répondit ma femme. Car vous savez qu'il doit être votre mari, et je n'entends pas que vous le tourmentiez de mille caprices, comme font les petites personnes d'aujourd'hui, qui meurent d'envie de se marier et qui, pour jouer les précieuses, font perdre la tête à un pauvre fiancé par des fantaisies et des simagrées de toutes sortes. Depuis quelque temps, vous êtes devenu fort bizarre et fort insupportable. Je vous en avertis, etc., etc. Votre Excellence peut imaginer tout ce que dit ma femme. Elle a une si brave langue dans la bouche. Cela finit par impatienter la petite, qui lui a dit d'un air très hautain, « Apprenez que Checo ne sera jamais mon mari parce que je le déteste et parce que j'ai disposé de mon cœur. » Alors Loredana se mit dans une grande colère et lui fit mille menaces. Mais je la calmai en disant qu'il fallait savoir en faveur de qui notre fille avait, comme elle le disait, disposé de son cœur. Et je la pressai de nous le dire. J'employai la douceur pour la faire parler, mais ce fut inutile. C'est mon secret, dit-elle. Je sais que je ne puis jamais épouser celui que j'aime, et j'y suis résigné. Mais je l'aimerai en silence, et je n'appartiendrai jamais à un autre. Là-dessus, ma femme s'emporta de plus en plus, lui reprocha de s'être enamouré de ce petit aventurier de Timothée, le laquais d'un Turc, et elle lui dit tant de sottises que la colère fut plus que l'amitié, et que la malheureuse enfant s'écria en se levant et en parlant d'une voix ferme, « Toutes vos menaces sont inutiles. J'aimerais celui que mon cœur a choisi, et puisque vous voulez savoir son nom, sachez-le, c'est Aboul. » Là-dessus, elle cacha son visage enflammé dans ses deux mains et fondit en larmes. Ma femme s'élança vers elle et lui donna un soufflet. « Ah, il eut tort !» s'écria la princesse. « Oui, sans doute, Excellence, elle eut tort. » Aussi, quand je fus revenu de l'espèce de stupeur où cette déclaration m'avait jeté, j'allais prendre ma fille par la main et, pour la soustraire au ressentiment de sa mère, je courus l'enfermer dans sa chambre et je revins essayer de calmer la Loredana. Bon, ce fut pas facile. Enfin, à force de la raisonner, j'obtins qu'elle laisserait l'enfant se dépiter et rougir de honte toute seule pendant quelques heures. Je me chargeai ensuite d'aller la réprimander et de l'amener demander pardon à sa mère à l'heure du souper. Pour lui donner le temps de faire ses réflexions, je suis sorti, emportant la clé de sa chambre dans ma poche, et songeant moi-même à ce que je pourrais lui dire de terrible et de convenable, pour la frapper d'épouvante et la ramener à la raison. Malheureusement, l'orage m'a surpris au milieu de ma méditation, et voici que je suis forcé de retourner au logis, sans avoir trouvé le premier mot de mon discours paternel. J'ai bien encore 3 heures avant le souper, mais Dieu sait si les questions, les exclamations et les lamentations de la Loredana me laisseront un quart d'heure de loisir pour me préparer à la conférence. Ah, qu'on est malheureux, Excellence, d'être père de famille et d'avoir affaire à des Turcs. Rassurez-vous, mon digne monsieur, répondit la princesse d'un air grave, le mal n'est peut-être pas aussi grand que vous l'imaginez. Peut-être quelques exhortations douces de votre part suffiraient-elles pour chasser l'influence du démon. Je m'occuperai, quant à moi, de réciter des prières et de faire dire des messes. Et puis je parlerai. Soyez sûr que j'ai de l'influence sur la Mathéa. S'il le faut, je l'emmènerai à la campagne. Venez me voir demain et amenez-la avec vous. Cependant, veillez bien à ce qu'elle ne porte aucun bijou ni aucune étoffe que ce Turc ait touché. Veillez aussi à ce qu'il ne fasse pas devant elle des signes cabalistiques avec les doigts. Demandez-lui si elle n'a pas reçu de lui quelque don. Et si cela est arrivé, exigez qu'elle vous le remette et jetez-le au feu. À votre place, je ferai exorciser la chambre. On ne sait pas quel démon peut s'être emparé. Allez, cher Spada, dépêchez-vous. Et surtout, tenez-moi au courant de cette affaire. Je m'y intéresse beaucoup. » En parlant ainsi, la princesse qui était arrivée à son palais fit un salut gracieux à son protégé et s'élança, soutenue de ses deux gondoliers, sur les marches du péristyle. Ser Giacomo, assez frappé de la profondeur de ses idées et un peu soulagé de son chagrin, remercia les gondoliers, car le temps était déjà redevenu serein, et reprit à pied, par les rues étroites et anguleuses de l'intérieur, le chemin de sa boutique, située sous les vieilles procuraties. Enfermée dans sa chambre, seule et pensive, la belle Mattea se promenait en silence, les bras croisés sur sa poitrine, dans une attitude de mutine résolution, et la paupière humide d'une larme que la fierté ne voulait point laisser tomber. Elle n'était pourtant vue de personne, mais sans doute elle sentait, comme il arrive souvent aux enfants et aux femmes, que son courage tenait à un fil et que la première larme qui s'ouvrirait un passage à travers ses longs cils noirs entraînerait un déluge difficile à réprimer. Elle se contenait donc, et se donnait en passant et en repassant devant sa glace des airs dégagés, affectant une démarche altière et s'éventant d'un large éventail de la Chine à la mode de ce temps-là. Mattea, ainsi qu'on a pu le voir par la conversation de son père avec la princesse, était une fort belle créature, âgée de 14 ans seulement, mais déjà très développée et très convoitée par tous les galants de Venise. Ser Giacomo ne la vantait point au-delà de ses mérites en déclarant que c'était un véritable trésor, une fille sage, réservée, laborieuse, intelligente, etc., etc. Mattea possédait toutes ces qualités et d'autres encore que son père était incapable d'apprécier, mais qui, dans la situation où le sort l'avait fait naître, devait être pour elle une source de maux très grands. Elle était douée d'une imagination vive, facile à exalter, d'un cœur fier et généreux et d'une grande force de caractère. Si ses facultés eussent été bien dirigées dans leur essor, Mattea eût été la plus heureuse enfant du monde et M. Spada le plus heureux des pères. Mais Mme Loredana, avec son caractère violent, son humeur âcre et querelleuse, son opiniâtreté qui allait jusqu'à la tyrannie, avait sinon gâté, du moins irrité cette belle âme au point de la rendre orgueilleuse, obstinée et même un peu farouche. Il y avait bien en elle un certain reflet du caractère absolu de sa mère, mais adouci par la bonté et l'amour de la justice qui est la base de toute belle organisation. Une intelligence élevée qu'elle avait reçue de Dieu seul et la lecture furtive de quelques romans pendant les heures destinée au sommeil, la rendait très supérieure à ses parents, quoiqu'elle fût très ignorante et plus simple peut-être qu'une fille élevée dans notre civilisation moderne ne l'est à l'âge de 8 ans. Élevée rudement, quoique avec amour et sollicitude, réprimandée et même frappée dans son enfance pour les plus légères inadvertances, Mattea avait conçu pour sa mère un sentiment de crainte qui souvent touchait à l'aversion. Altière et dévorée de rage en recevant ses corrections, elle s'était habituée à les subir dans un sombre silence, refusant héroïquement de supplier son tyran ou même de paraître sensible à ses outrages. La fureur de sa mère était doublée par cette résistance, et quoique au fond elle aimât sa fille, elle l'avait si cruellement maltraitée parfois que Ser Giacomo avait été obligé de l'arracher de ses mains. C'était le seul courage dont il fut capable, car il ne la redoutait pas moins que Mattea, et de plus, la faiblesse de son caractère le plaçait sous la domination de cet esprit plus obstiné et plus impétueux que le sien. En grandissant, Mathéa avait appelé la prudence au secours de son oppression, et, par frayeur, par aversion peut-être, elle s'était habituée à une stricte obéissance et à une muette ponctualité dans sa lutte. Mais la conviction qui enchaîne les cœurs s'éloignait du sien chaque jour davantage. En elle-même, elle détestait son joug, et sa volonté secrète démentait à chaque instant non pas ses paroles. Elle ne parlait jamais, pas même à son père, dont la faiblesse lui causait une sorte d'indignation, mais ses actions et sa contenance. Ce qui la révoltait peut-être le plus, et à juste titre, c'était que sa mère, au milieu de son despotisme, de ses violences et de ses injustices, se piqua d'une austère dévotion et la contraignit aux plus étroites pratiques du bigotisme. La piété, généralement si douce, si tolérante et si gaie chez la nation vénitienne, était dans le cœur de la piémontaise Redana un fanatisme insupportable que Mathéa ne pouvait accepter. Aussi, tout en aimant la vertu, tout en adorant le Christ et en dévorant à ses pieds chaque jour bien des larmes amères, la pauvre enfant avait osé, chose inouïe dans ce temps et dans ce pays, se séparer intérieurement du dogme à l'égard de plusieurs points arbitraires. Elle s'était fait, sans beaucoup de réflexion et sans aucune controverse, une religion personnelle, pure, sincère, instinctive. Elle apprenait chaque jour cette religion de son choix, l'occasion amenant le précepte, l'absurdité des arrêts, les révoltes du bon sens. Et quand elle entendait sa mère damner impitoyablement tous les hérétiques, quelque vertueux qu'ils fussent, elle allait assez loin dans l'opinion contraire pour absoudre même les infidèles et les regarder comme ses frères. Mais elle ne disait point ses pensées à cet égard. Car, quoique son extrême docilité apparente eût dû désormais pour toujours la mégère, celle-ci, à la moindre marque d'inattention ou de lenteur dans l'accomplissement de ses volontés, lui infligeait des châtiments réservés à l'enfance et dont la moutrée de l'adolescente Mathéa ressentait vivement les profondes atteintes. Si bien que 100 fois elle avait formé le projet de s'enfuir de la maison paternelle, et ce projet eût déjà été exécuté si elle avait pu compter sur un lieu de refuge. Mais dans son ignorance absolue du monde, sans en connaître les vrais écueils, elle craignait de ne pouvoir trouver nulle part asile et protection. Elle ne connaissait en effet de femme que sa mère et quelques volumineuses matrones de même acabit, plus ou moins exercées aux criailleries conjugales, mais toutes aussi bornées, aussi étroites dans leurs idées, aussi intolérantes dans ce qu'elles appelaient leurs principes moraux et religieux. Mathéa croyait toutes les femmes semblables à celles-là, tous les hommes aussi incertains, aussi opprimés, aussi peu éclairés que son père. Sa marraine, la princesse Jika, lui était douce et facile. Mais l'absurdité de son caractère n'offrait pas plus de garantie que celui d'un enfant. Elle ne savait où placer son espérance et songeait à se retirer dans quelque désert pour y vivre de racines et de pleurs. Si le monde est ainsi, se disait-elle dans ses vagues rêveries, si les malheureux sont repoussés partout, si celui que la justice révolte doit être maudit et chassé comme un impie, ou chargé de faire comme un fou dangereux, il faut que je meure ou que je cherche la Thébaïde. Alors elle pleurait et tombait dans de longues réflexions sur cette Thébaïde qu'elle ne se figurait guère plus éloignée que Trieste ou Padoue, et qu'elle songeait à gagner à pied avec quelques sequins, fruit des épargnes de toute sa vie. Tout autre qu'elle eût songé à se sauver dans un couvent, refuge ordinaire en ces temps-là des filles coupables ou désolées. Mais elle avait une invincible méfiance et une espèce de haine pour tout ce qui portait un habit religieux. Son confesseur l'avait trahi dans de soi-disant bonnes intentions, en discorde avec sa mère, et de la confession reçue et de la pénitence fructueuse à imposer. Mathéa le savait, et forcée de retourner vers lui, elle avait eu la fermeté de refuser et la pénitence et l'absolution. Menacée par le confesseur, elle l'avait menacé à son tour d'aller se jeter aux pieds du patriarche et de lui tout déclarer. C'était une menace qu'elle n'aurait point exécutée, car la pauvre opprimée eut craint de trouver dans le patriarche lui-même un oppresseur plus puissant. Mais elle avait réussi à effrayer le prêtre, et depuis ce temps, le secret de sa confession avait été respecté. Mathéa, s'imaginant que toute nonne ou prêtre à qui elle aurait recours, bien loin de prendre sa défense, la livrerait à sa mère et rendrait sa chaîne plus pesante, repoussait non seulement l'idée d'implorer de tels gens, mais encore celle de fuir. Elle chassait vite ce projet dans la singulière crainte de le faire échouer en étant forcée de s'en confesser, et par une sorte de jésuitisme naturel aux âmes féminines, elle se persuadait avoir eu que d'involontaires velléités de fuite, tandis qu'elle conservait solide et intacte, dans je ne sais quel repli caché de son cœur, la volonté de partir à la première occasion. Elle eût pu chercher dans les offres ou seulement dans les désirs naissants de quelque adorateur une garantie de protection et de salut. Mais Mathéa, aussi chaste que son âge, n'y avait jamais pensé. Il y avait dans les regards avides que sa beauté attirait sur elle quelque chose d'insolent qui blessait son orgueil au lieu de le flatter et qui l'augmentait dans un sens tout opposé à la puérile vanité des jeunes filles. Elle n'était occupée qu'à se créer un maintien froid et dédaigneux qui éloigna toute entreprise impertinente. Et elle faisait si bien que nulle parole d'amour n'avait osé arriver jusqu'à son oreille, aucun billet jusqu'à la poche de son tablier. Mais comme elle agissait ainsi par disposition naturelle et non par suite des leçons emphatiques de sa mère, elle ne repoussait pas absolument l'espoir de trouver un cœur noble, une amitié solide et désintéressée qui consentit à la sauver sans rien exiger d'elle. Car si elle ignorait bien des choses, elle en savait aussi beaucoup que les filles d'une condition médiocre apprennent de très bonne heure. Le cousin Checo étant stupide et insoutenable, comme tous les maris tenus en réserve par la prévoyance des parents, Mathéa s'était juré de se précipiter dans le canalazzo plutôt que d'épouser cet homme ridicule. Et c'était principalement pour se garantir de ses poursuites qu'elle avait déclaré le matin même à sa mère, dans un effort désespéré, que son cœur appartenait à un autre. Mais cela n'était pas vrai. Quelquefois, peut-être, Mathéa, laissant errer ses yeux sur le calme et beau visage du marchand turc, dont le regard ne la recherchait jamais et ne l'offensait point comme celui des autres hommes, avait-elle pensé que cet homme, étranger aux lois et aux préjugés de son pays, et surtout renommé entre tous les négociants turcs pour sa noblesse et sa probité, pouvait la secourir? Mais à cette idée rapide avait succédé un raisonnable avertissement de son orgueil. Abul ne semblait nullement éprouver pour elle amour, amitié ou compassion. Il ne paraissait pas même la voir la plupart du temps. Et s'il lui adressait quelques regards étonnés, c'était de la singularité de son vêtement européen, ou du bruit que faisait à son oreille la langue presque inconnue qu'elle parlait, qu'il était émerveillé. Mathéa s'était rendu compte de tout cela. Elle se disait sans humeur, sans dépit, sans chagrin, peut-être seulement avec une surprise ingénue, qu'elle n'avait produit aucune impression sur Abul. Puis elle ajoutait, Si quelque marchand turc d'une bonne et honnête figure et d'une intacte réputation, comme Aboulhamet, m'offrait de m'épouser et de m'emmener dans son pays, j'accepterais sans répugnance et sans scrupule. Et quelque médiocrement heureuse que je fusse, je ne pourrais manquer de l'être plus qu'ici. C'était là tout, en vérité. Ni le Turc Aboul, ni le Grec Timothée ne lui avaient adressé une parole qui donna suite à ses idées. Et c'était dans un moment d'exaspération singulière, délirante, inexplicable, comme il en vient seulement aux jeunes filles, que Mathéa, soit pour désespérer sa mère, soit pour se persuader à elle-même qu'elle avait une volonté bien arrêtée, avait imaginé de nommer le Turc plutôt que le Grec, plutôt que le premier Vénitien venu. Cependant, à peine cette parole fut-elle prononcée, étrange effet de la volonté ou de l'imagination dans les jeunes têtes, que Mathéa chercha à se pénétrer de cet amour chimérique et à se persuader que depuis plusieurs jours, elle en avait ressenti les mystérieuses atteintes. « Non, se disait-elle, je n'ai point menti, je n'ai point avancé au hasard une assertion folle. J'aimais sans le savoir. Toutes mes pensées, toutes mes espérances se reportaient vers lui. Au moment du péril, dans la crise décisive du désespoir, mon amour s'est révélé aux autres et à moi-même. Ce nom est sorti de mes lèvres par l'effet d'une volonté divine. Et je le sens maintenant, Aboul est ma vie et mon salut. » En parlant ainsi à haute voix dans sa chambre, exaltée, belle comme un ange dans sa vive rougeur, Mathéa se promenait avec hésitation et faisait voltiger son éventail autour d'elle. Timothée était un petit homme d'une figure agréable et fine, dont le regard un peu railleur était tempéré par l'habitude d'une prudente courtoisie. Il avait environ 28 ans et sortait d'une bonne famille de Grecs esclavons, ruinés par les exactions du pouvoir ottoman. De bonne heure, il avait couru le monde, cherchant un emploi, exerçant tout ce qui se présentait à lui, sans morgue, sans timidité, ne s'inquiétant pas, comme les hommes de nos jours, de savoir s'il avait une vacation, une spécialité quelconque, mais s'occupant avec constance à rattacher son existence isolée à celle de la foule. Nullement fanfaron, mais fort entreprenant, il abordait tous les moyens de faire fortune, même les plus étrangers aux moyens précédemment tentés par lui. En peu de temps, il se rendait propre aux travaux que son nouvel état exigeait, et lorsque son entreprise avortait, il en embrassait une autre aussitôt. Pénétrant, actif, passionné comme un joueur pour toutes les chances de la spéculation, mais prudent, discret, tant soit peu fourbe, non pas jusqu'à la déloyauté, mais bien jusqu'à la malice, il était de ces hommes qui échappent à tous les désastres avec ce mot « bon, nous verrons bien ». Ceux-là, s'ils ne parviennent pas toujours à l'apogée de la destinée, se font du moins une place commode au milieu de l'encombrement des intrigues et des ambitions. Et lorsqu'ils réussissent à monter jusqu'à un poste brillant, on s'étonne de leur subite élévation, on les appelle les privilégiés de la fortune. On ne sait pas par combien de revers patiemment supportés, par combien de fatigantes épreuves et d'audacieux efforts, ils ont acheté ces faveurs. Timothée avait donc exercé tour à tour les fonctions de garçon de café, de glacier, de colporteur, de trafiquant de fourrure, de commis, d'aubergiste, d'empirique et de régisseur, toujours à la suite ou dans les intérêts de quelques musulmans. Car les Grecs de cette époque, en quelque lieu qu'ils fussent, ne pouvaient s'affranchir de la domination turque, sous peine d'être condamnés à mort en remettant le pied sur le sol de leur patrie. Et Timothée ne voulait point se fermer l'accès d'une contrée dont il connaissait parfaitement tous les genres d'exploitation commerciale. Il avait été chargé d'affaires de plusieurs trafiquants, qu'il avait envoyé en Allemagne, en France, en Égypte, en Perse, en Sicile, en Moscovie et en Italie surtout. Venise étant alors l'entrepôt le plus considérable du commerce avec l'Orient. Dans ses derniers voyages, Timothée avait appris incroyablement vite à parler, sinon correctement, du moins facilement, les diverses langues des peuples qu'il avait visités. Le dialecte vénitien était un de ceux qu'il possédait le mieux, et le teinturier Aboulamet, négociant considérable, dont les ateliers étaient à Corfou, l'avait pris depuis peu pour inspecteur de ses ouvriers, teneur de livres, truchement, etc. Il avait en lui une extrême confiance et goûtait un plaisir silencieux à écouter, sans la moindre marque d'intelligence ou d'approbation, ses joyeuses saillies et son babil spirituel. Il faut dire en passant que les Turcs étaient, et sont encore, les hommes les plus probes de la terre. De là à une grande simplicité de jugement et une admirable imprudence dans les affaires. Ennemis des écritures, ils ignorent l'usage des contrats et des mille preuves de scélératesse qui ressortent des lois de l'Occident. Leur parole vaut mieux que signatures, timbres et témoins. Elle est reçue dans le commerce, même par les nations étrangères, comme une garantie suffisante. Et à l'époque où vivaient Aboulamet, Timothée et M. Spada, il n'y avait point encore eu la Bourse de Venise, un seul exemple de faillite de la part d'un Turc. On en compte deux aujourd'hui. Les Turcs se sont vus obligés de marcher avec leur siècle et de rendre cet hommage au règne des Lumières. Quoique mille fois trompés par les Grecs et par les Vénitiens, population également avide, retorte et rompue à l'escroquerie, avec cette différence que les riverains orientaux de l'Adriatique ont servi d'exemple et de maître à ceux de l'Occident, les Turcs sont exposés comme forcés chaque jour à se laisser dépouiller par ces fourbes commettants. Pourvus d'une intelligence paresseuse et ne sachant dominer que par la force, ils ne peuvent se passer de l'entreprise des nations civilisées. Aujourd'hui, ils les appellent franchement à leur secours. Dès lors, ils s'abandonnaient aux Grecs, esclaves adroits qui savaient se rendre nécessaires et qui se vengeaient de l'oppression par la ruse et la supériorité d'esprit. Il y avait pourtant quelques honnêtes gens parmi ces fins larrons, et Timothée était à tout prendre un honnête homme. Au premier abord, comme il était d'une assez chétive complexion, les femmes de Venise le déclaraient insignifiant. Mais un peintre, tant soit peu intelligent, ne l'eût pas trouvé tel. Son teint bilieux et uni faisait ressortir la blancheur de l'émail des dents et des yeux, contraste qui constitue une beauté chez les Orientaux et que la statuaire grecque ne nous a pu faire soupçonner. Ses cheveux, fins comme la soie et toujours imprégnés d'essence et de rose, étaient, par leur longueur et leur beau noir d'ébène, un nouvel avantage que les Italiennes, habituées à ne voir que des têtes poudrées, n'avaient pas le bon goût d'apprécier. Enfin, la singulière mobilité de sa physionomie et le rayon pénétrant de son regard l'eussent fait remarquer s'il eût eu affaire à des gens moins incapables de comprendre ce que son visage et sa personne trahissaient de supériorité sur eux. Il était venu pour parler d'affaires à M. Spada à peu près à l'heure où la tempête avait jeté celui-ci dans la gondole de la princesse Veneranda. Il avait trouvé dans Loredana, seul au comptoir, et si revêche qu'il avait renoncé à s'asseoir dans la boutique et s'était décidé à attendre le marchand de soierie en prenant un sorbet et en fumant sous les arcades des procuraties à trois pas de la porte de M. Spada. Les galeries des procuraties sont disposées à peu près comme celles du Palais Royal à Paris. Le rez-de-chaussée est consacré aux boutiques et aux cafés, et l'entresol, dont les fenêtres sont abritées par le plafond des galeries, est occupé par les familles des boutiquiers ou par les cabinets des limonadiers. Seulement, l'affluence des consommateurs est telle dans l'été que les chaises et les petites tables obstruent le passage en dehors des cafés et couvrent la place Saint-Marc où des tentes sont dressées à l'extérieur des galeries. Timothée se trouvait donc à une de ces petites tables, précisément en face des fenêtres situées au-dessus de la boutique de Giacomo. Et comme ses regards se portaient furtivement de ce côté, il aperçut dans une mitaine de soie noire un beau bras de femme qui semblait lui faire signe, mais qui se retira timidement avant qu'il eût pu s'en assurer. Ce manège ayant recommencé, Timothée, sans affectation, rapprocha sa petite table et sa chaise de la fenêtre mystérieuse. Alors, ce qu'il avait prévu arriva. Une lettre tomba dans la corbeille où étaient ses macarons aux girofles. Il la prit fort tranquillement et la cacha dans sa bourse, tout en remarquant l'anxiété de Loredana, qui à chaque instant s'approchait de la vitre du rez-de-chaussée pour l'observer. Mais elle n'avait rien vu. Timothée rentra dans la salle du café et lut le billet suivant. Il l'ouvrit sans façon, ayant reçu une fois pour toutes de son maître l'autorisation de lire les lettres qui lui seraient adressées, et sachant bien, d'ailleurs, que Boule ne pouvait se passer de lui pour en comprendre le sens. « Aboulamet, je suis une pauvre fille opprimée et maltraitée. Je sais que votre vaisseau va mettre la voile dans quelques jours. Voulez-vous me donner un petit coin pour que je me réfugie en Grèce ? Vous êtes bon et généreux à ce qu'on dit. Vous me protégerez ? Vous me mettrez dans votre palais ? Ma mère m'a dit que vous aviez plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. J'élèverai vos enfants et je broderai pour vos femmes ou je préparerai la soie dans vos ateliers. Je serai une espèce d'esclave, mais comme étrangère, vous aurez des égards et des bontés particulières pour moi. Vous ne souffrirez pas qu'on me persécute pour me faire abandonner ma religion, ni qu'on me traite avec trop de dédain. J'espère en vous et en un Dieu qui est celui de tous les hommes, Mathéa. » Cette lettre parut si étrange à Timothée qu'il la relut plusieurs fois jusqu'à ce qu'il en eût pénétré le sens. Comme il n'était pas homme à comprendre à demi, lorsqu'il voulait s'en donner la peine, il vit dans cet appel à la protection d'un inconnu quelque chose qui ressemblait à de l'amour et qui pourtant n'était pas de l'amour. Il avait vu souvent les grands yeux noirs de Mathéa s'attacher avec une singulière expression de doute, de crainte et d'espoir sur le beau visage d'Aboul. Il se rappelait la mauvaise humeur de la mère et son désir de l'éloigner. Il réfléchit sur ce qu'il avait à faire, puis il alluma sa pipe avec la lettre, paya son sorbet et marcha à la rencontre de Ser Giacomo qu'il apercevait au bout de la place. Au moment où Timothée l'aborda, il caressait l'acquisition prochaine d'une cargaison de soie arrivant de Smyrne pour recevoir la teinture à Venise comme cela se pratiquait à cette époque. La soie retournait ensuite en Orient pour recevoir la façon ou bien elle était façonnée et débitée à Venise selon l'occurrence. Cette affaire lui offrait la perspective la plus brillante et la mieux assurée. Mais un rocher tombant du haut d'une montagne sur la surface unie d'un lac y casse moins de trouble que ces paroles de Timothée n'en produisirent dans son âme. « Mon cher seigneur Giacomo, je viens vous présenter les salutations de mon maître Aboulamet et vous prier de sa part de vouloir bien acquitter une petite note de 2000 sequins qui vous sera présenté à la fin du mois, c'est-à-dire dans 10 jours. Cette somme était à peu près celle dont M. Spada avait besoin pour acheter sa chère cargaison de Smyrne, et il s'était promis d'en disposer à cet effet, se flattant d'un plus long crédit de la part d'Aboul. « Ne vous étonnez point de cette demande, » lui dit Timothée d'un air léger et feignant de ne point voir sa pâleur. « Aboul vous aurait donné, s'il eût été possible, l'année tout entière pour vous acquitter, comme il l'a fait jusqu'ici. » Et c'est avec grand regret, je vous jure, qu'un homme aussi obligeant et aussi généreux s'expose à vous causer peut-être une petite contrariété, mais il se présente pour lui une magnifique affaire à conclure. Un petit bâtiment smyrniote que nous connaissons vient d'apporter une cargaison de soie vierge. Oui, j'ai entendu parler de cela, balbutia Spada, de plus en plus effrayé. L'armateur du Smyrniote a pris, en entrant dans le port, un échec épouvantable arrivé à sa fortune. Il faut qu'il réalise à tout prix quelques fonds et qu'il court à Corfou sur ses entrepôts. Aboul, voulant profiter de l'occasion sans abuser de la position de Smyrniote, lui offre 2 500 sequins de sa cargaison. C'est une belle affaire pour tous les deux et qui fait honneur à la loyauté d'Aboul. Car on dit que le maximum des propositions faites ici au Smyrniote est de 2 000 sequins. Aboul, ayant la somme excédente à sa disposition, compte sur le billet à ordre que vous lui avez signé. Vous n'apporterez pas de retard à l'exécution de nos traités, nous le savons. Et vous prions, cher seigneur Zacobo, d'être assuré que, sans une occasion extraordinaire... Oh, Faquin, délivre-moi au moins de tes phrases! S'écriait dans le secret de son âme le triste Spada. Bourreau qui me faites manquer la plus belle affaire de ma vie et qui venez encore me dire en face de payer pour vous. Mais ces exclamations intérieures se changeaient en sourires forcés et en regards effarés sur le visage de M. Spada. Et quoi ? Dit-il enfin en étouffant un profond soupir. « Aboul, douterait-il de moi, et d'où vient qu'il veut être soldé avant l'échéance ordinaire ?»« Aboul ne doutera jamais de vous, vous le savez depuis longtemps, et la raison qui l'oblige à vous réclamer sa somme, votre seigneurie vient de l'entendre. » Il ne l'avait que trop entendu. Aussi joignait-il les mains d'un air consterné. Enfin, reprenant courage, « Mais savez-vous, dit-il, que je ne suis nullement forcé de payer avant l'époque convenue ? Si je me rappelle bien l'état de nos affaires, cher monsieur Spada, répondit Timothée avec une tranquillité et une douceur inaltérables, vous devez payer à vue sur présentation de vos propres billets. Hélas, hélas, Timothée, votre maître est-il un homme capable de me persécuter et d'exiger à la lettre l'exécution d'un traité avec moi ? Non, sans doute. Aussi depuis 5 ans vous a-t-il donné pour vous acquitter le temps de rentrer dans les fonds que vous aviez absorbés, mais aujourd'hui... Mais, Timothée, la parole d'un musulman vaut un titre à ce que dit tout le monde. Et ton maître s'est engagé, maintes fois, verbalement, à me laisser toujours la même latitude. Je pourrais fournir des témoins au besoin et... Et qu'obtiendriez-vous ? Dit Timothée qui devinait fort bien. Je sais, répondit Zacomo, que de pareils engagements n'oblige personne, mais on peut discréditer ceux qui les prennent en faisant connaître leur conduite désobligeante. C'est-à-dire, reprit tranquillement Timothée, que vous diffameriez un homme qui, ayant des billets à ordre signés de vous dans sa poche, vous a laissé un crédit illimité pendant 5 ans. Et le jour où cet homme serait forcé de vous faire tenir vos engagements à la lettre, vous lui allégueriez un engagement chimérique. Mais on ne déshonore pas Boulamette. Et tous vos témoins attesteraient qu'Ahmed vous a fait verbalement cette concession avec une restriction dont voici la lettre exacte. Monsieur Spada ne serait point requis de payer avant un an, à moins d'un cas extraordinaire. À moins d'une perte totale des marchandises d'Aboul dans le port, interrompit monsieur Spada. Ce n'est pas ici le cas. À moins d'un cas extraordinaire, répéta Timothée, avec un sang-froid imperturbable. Je ne saurais m'y tromper. Ces paroles ont été traduites du grec moderne en vénitien, et c'est par ma bouche que cette traduction est arrivée à vos oreilles, mon cher seigneur. Ainsi donc. Il faut que j'en parle avec Aboul, s'écria M. Spada. Il faut que je le voie. Mais quand vous voudrez, répondit le jeune grec. Ce soir, dit Spada. Ce soir, il sera chez vous, reprit Timothée. Et il s'éloigna en accablant de révérence le malheureux Acomo, qui, malgré sa politesse ordinaire, ne songea pas lui rendre seulement un salut et rentra dans sa boutique dévoré d'anxiété. Son premier soin fut de confier à sa femme le sujet de son désespoir. Loredana n'avait pas les mœurs douces et paisibles de son mari, mais elle avait l'âme plus intéressée, le caractère plus fier. Elle le blâma sévèrement d'hésiter à remplir ses engagements, surtout lorsque la passion funeste de leur fille pour ce Turc devait leur faire une loi de l'éloigner de leur maison. Mais elle ne put amener son mari à cet avis. Il était dans leur querelle d'une souplesse de forme qui rachetait l'inflexibilité de ses opinions et de ses desseins. Il finit par la décider à envoyer sa fille pour quelques jours à la campagne chez la signora Veneranda qui le lui avait offert, promettant durant son absence de terminer avantageusement l'affaire d'Aboul. Le Turc, d'ailleurs, partirait après cette opération. Il ne s'agissait que de mettre la petite en sûreté jusque-là. « Vous vous trompez, » dit le Redana. « Il restera jusqu'à ce que sa soie puisse être emportée, et s'il la met en couleur ici, ce sera pas fait de si tôt. » Néanmoins, elle consentit à envoyer sa fille chez sa protectrice. Monsieur Spada, cachant bien à sa femme qu'il avait donné rendez-vous à Aboul pour le soir même, et se promettant de le recevoir sur la place ou au café, loin de l'œil de son honnête amanta, en attendant à la chambre de sa fille, se vantant tout haut de la gronder, et se promettant bien tout bas de la consoler. Voyons, lui dit-il en se jetant tout haletant de fatigue et d'émotion sur une chaise. Qu'as-tu dans la tête? Cette folie est-elle passée? Non, mon père, dit Mathéa d'un ton respectueux mais ferme. Oh, par le corps de la Madone, s'écria Zaccomo, est-il possible que tu penses vraiment à ce Turc? Espères-tu l'épouser? Et le salut de ton âme, crois-tu qu'un prêtre t'admettrait à la communion catholique après un mariage turc? Et ta liberté? Ne sais-tu pas que tu seras enfermé dans un harem? Et ta fierté? Tu auras 15 ou 20 rivales? Et ta dot? Tu n'en profiteras pas, tu seras esclave. Et tes pauvres parents, les quittes-tu pour aller demeurer au fond de l'archipel? Et ton pays, et tes amis, et Dieu, et ton vieux père? Ici, M. Stada s'attendrit. Sa fille s'approcha et lui baisa la main. Mais, faisant un grand effort pour ne pas s'attendrir elle-même, « Mon père, dit-elle, je suis si captive, opprimée, esclave, autant qu'on peut l'être dans le pays le plus barbare. Je ne me plains pas de vous. Vous avez toujours été doux pour moi, mais vous ne pouvez pas me défendre. J'irai en Turquie. Je ne serais la femme ni la maîtresse d'un homme qui aurait 20 femmes. Je serai sa servante ou son amie, comme il voudra. Si je suis son ami, il m'épousera et renverra ses 20 femmes. Si je suis sa servante, il me nourrira et ne me battra pas. Te battre, par le Christ, on ne te bat pas ici. » Mathéa ne répondit rien, mais son silence eut une éloquence qui paralysa son père. Ils furent tous deux muets pendant quelques instants, l'un plaidant sans vouloir parler, l'autre lui donnant quin de gauze sans l'oser l'avouer. « Je conviens, oui, que tu as eu quelques chagrins, » dit-il enfin. « Mais écoute, ta marraine va t'emmener à la campagne. Cela te distraira. Personne ne te tourmentera plus. Et tu oublieras ce Turc. Voyons, promets-le-moi. » « Mon père, » dit Mathéa, « il ne dépend pas de moi de l'oublier. » Car croyez bien que mon amour pour lui n'est pas volontaire et que je n'y céderai jamais si le sien n'y répond pas. Ce qui me rassure, dit M. Giacomo en riant, c'est que le sien n'y répond pas du tout. Mais qu'en savez-vous, mon père ? Dit Mathéa, poussé par un mouvement d'orgueil blessé. Cette parole fit frémir Spada de crainte et de surprise. Peut-être se sont-ils entendus, pensa-t-il. Peut-être l'aime-t-il et l'a-t-il séduite par l'entremise du grec, si bien que rien ne pourra l'empêcher de courir à sa perte. Mais en même temps qu'il s'effrayait de cette supposition, je ne sais comment les 2000 sequins, le bâtiment smyrniote et la soie blanche lui revinrent en mémoire. Et son cœur bondit d'espérance et de désir. Je ne veux pas savoir non plus par quel fil mystérieux l'amour du gain unit ces deux sentiments opposés et fit que Giacomo se promit d'éprouver les sentiments d'Aboul pour sa fille et de les exploiter en lui donnant une trompeuse espérance. Il y a tant d'honnêtes moyens de vendre la dignité d'une fille. Cela peut se faire au moyen d'un regard qu'on lui permet d'échanger en détournant soi-même la tête et en fredonnant d'un air distrait. Spada entendit l'horloge de la place sonner l'heure de son rendez-vous avec Aboul. Le temps pressait. Tant de chalands pouvaient être déjà dans le port autour du bâtiment smyrniote. « Allons, prends ton voile, » dit-il à sa fille. Et viens faire un tour de promenade. La fraîcheur du soir te fera du bien, et nous causerons plus tranquillement. » Mathéa obéit. Où donc menez-vous cette fille égarée ? S'écria Loredana en se mettant devant eux au moment où ils sortaient de la boutique. Nous allons voir la princesse, répondit Giacomo. La mère les laissa passer. Ils n'eurent pas fait 10 pas qu'ils rencontrèrent Aboul et son interprète qui venaient à leur rencontre. « Allons faire un tour sur la Zouéka, » leur dit Giacomo. « Ma femme est malade à la maison, et nous causerons mieux d'affaires dehors. » Timothée sourit et comprit très bien qu'il avait greffé dans le cœur de l'arbre. Mathéa, très surprise et saisie de défiance, sans savoir pourquoi, s'assit toute seule au bord de la gondole et s'enveloppa dans sa mantille de dentelle noire. Aboul, ne sachant absolument rien de ce qui se passait autour de lui et à cause de lui, se mit à fumer à l'autre extrémité, avec l'air de majesté qu'aurait un homme supérieur en faisant une très grande chose. C'était un vrai Turc, solennel, emphatique et beau, soit qu'il se prosternât dans une mosquée, soit qu'il ôtât ses babouches pour se mettre au lit. M. Giacomo, ne croyant plus fin que tous, se mit à lui témoigner beaucoup de prévenance. Mais chaque fois qu'il jetait les yeux sur sa fille, Un sentiment de remords s'emparait de lui. « Regarde-le encore aujourd'hui, lui disait-il dans le secret de sa pensée, en voyant les grands yeux humides de Mathéa briller au travers de son voile et se fixer sur Aboul. « Allez, va, sois belle, et fais-lui soupçonner que tu l'aimes. Quand j'aurai la soie branche, tu rentreras dans ta cage, et j'aurai la clé dans ma poche. »